habitants sommes-nous quand je suis revenue du Mexique l'année dernière? Une chose qui était claire pour moi, qui s'était passée entre autres dans mon cœur, c'est de réaliser que Dieu est Seigneur. Qu'il est Seigneur, qu'il est maître des saisons, qu'il est maître des temps. Et j'ai l'impression que dans notre monde évangélique français, on nous a toujours dit, c'est à nous de faire, si tu fais pas, si tu fais pas, si ceci, si cela, si tu fais pas, ça n'arrivera pas, si tu, attends, et puis on est complètement écrasé, Christ ne reviendra pas si je suis pas à la hauteur. Ouh, ça craint, parce que Christ est Seigneur. Et en fait, il y a ce passage de Romains qui nous dit très bien, mais ça je pense que tout le monde le connaît, dans Romains 1 au verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur a ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Je le redis. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis quand? Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et mes amis, en France, ça ne fait qu'un siècle et demi qu'on a décidé de ne plus enseigner le Dieu créateur. Mais jusqu'à il y a Jules Ferry, chaque enfant français était enseigné depuis... les pères de l'Église, je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas historienne, mais au moins depuis l'an 300. Puisque je vous rappelle que la France a été appelée fille aînée de l'Église, Vito me fait signe que oui, donc ça doit être ça, l'an 300, le concile, le premier concile, certainement. Bref. Donc le Dieu créateur, reconnaître que Dieu est le créateur. Alors j'ai réfléchi, alors pourquoi au Mexique c'est passé? Parce qu'on a eu un frère qui nous a montré que depuis Jésus, il y a des cycles, non, même depuis avant, depuis la création, il y a des cycles de 500 ans, et que toute notre, la vie des hommes, en fait, fonctionne par cycle. Alors, il viendra nous l'enseigner en septembre, ne loupez pas ça, il s'appelle Alfredo Ceres, on l'a invité exprès parce qu'on se dit c'est trop génial, fin septembre, ne loupez pas le séminaire avec lui. Mais donc, il montre par A plus B et au travers de la parole que depuis le jardin d'Éden, Dieu a toujours fonctionné, il s'est toujours révélé dans qui il est, dans sa justice, comme Père. Et Dieu s'est montré depuis le début comme Père. Il était le Père, il était le Père d'abord, il est dit que Jésus, alors ça m'est revenu l'autre matin, pour tous ceux qui sont d'origine catholique, vous l'avez tous répété dans votre credo, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui, tout a été fait. Alors l'autre matin, je me répétais ça, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Alors là, je me suis dit, waouh. Mais enfin bon, avant de venir là-dessus, donc qu'est-ce qui se passe quand on ne reconnaît plus le Dieu créateur, comme il le dit dans Romains 1? Alors il le dit un peu plus loin, il dit, eh bien, puisqu'ils n'ont pas reconnu Dieu, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se sont égarés dans leurs pensées, et ils ont été, leur cœur sans intelligence, ils ont été plongés dans les ténèbres. Alors vous savez combien Luc a à cœur la pensée, combien depuis qu'il est venu au Seigneur, il a lu ce verset qui disait « Dieu cherche un homme qu'il aime, il aime de tout son cœur et de toute sa pensée ». Et depuis l'âge de 20 ans, Luc cherche, il dit « Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu avec toute sa pensée ?» Parce que dans le monde évangélique, comme on avait vu que les hommes avaient fait des choses pas bien, donc on a dit « La pensée, elle n'est pas bonne, hop, on clique sur poubelle ». Eh ben non, qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu avec toute sa pensée? Donc j'en reviens, le Dieu créateur, qu'est-ce qui se passe si l'on ne reconnaît pas Dieu créateur? Moi, j'en suis revenue, moi, quand je suis venue au Seigneur. J'étais athée quand j'étais ado. Mais petite, j'étais chez les religieuses, donc j'ai quand même entendu parler du Dieu créateur. J'étais chez les scouts pendant 5 ans, et j'étais un bon scout. Donc j'avais bien appris tout ce qu'on nous enseignait sur le Dieu créateur. Donc même si mon père, à cause de sa vie en tant qu'Espagnol et tout ce qu'il avait vécu à la guerre d'Espagne, et qui ne pouvait pas croire que Dieu ressemblait à l'Église comme il l'avait vu en Espagne au moment de la guerre de 36, bien sûr, il m'a dit « Non, non, il n'y a pas de Dieu, tu es ton propre Dieu, etc. » Donc j'étais devenue athée, mais seulement sur les 15 ans, 15-19 ans. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai questionné Dieu, j'ai dit « Dieu, si tu ne réponds pas à telle et telle question, si je ne comprends pas, j'obéis pas. Et puis le Seigneur m'a réveillée pendant la nuit et il m'a montré son amour immense. Cet amour qu'on appelle l'amour agapé, que nous on ne peut pas produire. Parce que notre amour à nous, comme le descriptif que nous faisait Franck tout à l'heure, mais une fois qu'on est juste, on n'est plus là-dessous, c'est un amour égoïste, c'est un amour étroit, c'est un amour charnel, c'est un amour humain. Je te donne si tu me donnes en retour. Je donne si je reçois. Enfin bon, c'est cet amour qui est tellement étriqué. Et le Père m'a montré son amour à lui. Alors là, j'ai dit, waouh, moi, c'est cet amour-là que je veux. À l'époque, j'étais déjà avec lui. Alors j'ai dit, voilà la prière que j'ai faite. Toute jeune fille, avec tous les problèmes que je pouvais avoir, parce que j'en avais jusqu'aux yeux, j'ai dit, je reconnais que tu m'as créée. Je reconnais que donc tu es le Créateur. Donc je reconnais que parce que tu m'as créée, tu sais comment je fonctionne, mieux que moi. Et donc je veux bien obéir, même si je ne comprends pas. Alors quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, waouh, mais c'est tellement important ce qu'on fait dans la maternelle, à l'école Daniel, à l'école Emmanuel et dans nos écoles chrétiennes. Parce qu'on est en train de poser le fondement même de la foi, de la confiance en Dieu. D'un coup, je réalisais que si vous enlevez la notion du Dieu créateur, votre foi, elle reste suspendue dans l'air. Elle ne sait plus sur quoi s'appuyer. Et c'est pour ça qu'on est arrivé maintenant, chacun son chemin, chacun sa route, chacun son destin, chacun fait comme il veut. Voilà, chacun sa route, chacun son chemin, n'est-ce pas? Alors là, c'est anti-biblique à fond, hein. Mais c'est simplement le résultat du fait qu'on a enlevé de la nation de France, pendant maintenant 120 ans. Tiens, 120 ans, c'est un cycle, on arrive à la fin. Merci Seigneur pour le nouveau cycle. C'était un temps de malédiction où on a enlevé la connaissance du Dieu créateur. Donc c'est les fondements même de la nation française qu'on a voulu toucher et que l'on a voulu pourrir pour que les Français ne puissent plus croire en Dieu. Parce que si tu ne crois pas dans le Dieu créateur, comment peux-tu lui faire confiance? Mais si tu crois qu'il y a un Dieu au-dessus de tout, qui t'a créé, qui t'aime, qui est au-dessus, qui connaît tout, sur qui tout repose, à ce moment-là tu peux lui faire confiance. Premier point. Alors, deuxième point, j'ai voulu aller un petit peu plus loin et j'ai repensé à ce que Dieu nous a dit au moment de la fête de début de l'année, Yom Kippour, quand on avait fait le jeûne d'église, et où Dieu nous avait montré que, en fait, il était ce Père et qu'il voulait se révéler comme Père, mais qu'en rejetant les fêtes, on avait rejeté cette image de Père. Alors, cette fois, j'étais un peu avant ça, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc si vous voulez, on peut regarder le passage de Jésus, hein, qui est fils. Donc on peut prendre ensemble Jean 1, verset 1, que tout le monde a lu certainement au moins une fois, je pense. Normalement, minimum une fois, certainement beaucoup plus. Mais je vous propose de le relire encore et de demander au Saint-Esprit vraiment de nous parler à la lumière de ce que l'on est en train de découvrir avec la justice. Parce que la justice, il y a le avant, vous allez voir. Donc au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Quand Jean parle de ça, au tout début de son évangile, il parle de qui en fait? Il veut présenter qui? Il veut présenter Jésus. D'ailleurs, on sait, Jésus, il est la parole de Dieu. On dit que la parole de Dieu est le fondement même du monde. Alors, je ne sais pas vous, et je ne sais pas encore pourquoi, mais pour moi, peut-être moi maintenant, en ayant travaillé ces passages, beaucoup de difficultés à réaliser que Jésus est créateur. Je ne sais pas pour vous, mais j'en ai parlé avec ma maman hier au téléphone. C'était très intéressant la discussion qu'on a eue. Donc elle est catholique romaine, enseignée chez les religieuses depuis petite jusqu'à je ne sais plus quel âge. Et elle me dit, mais tu coupes les cheveux en quatre, ma fille. C'est Dieu, non? Je dis, bah oui, c'est Dieu, c'est comme une famille. Je dis, les fantova, il y a le papa, il y a la maman, il y a le grand frère, il y a le petit frère et il y a la sœur du milieu. Et chez les Bussières, c'est un peu plus long. Donc oui, il est Dieu, mais il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et vous allez voir, c'est important de savoir qu'il y a un Père, qu'il y a un Fils, qu'il y a le Saint-Esprit, parce que pourquoi c'est important de savoir qu'il y a un Fils? Et qui est le Fils? Pardon, Odile? Pourquoi c'est important de savoir qu'il y a un Fils? Oui, mais pourquoi c'est important de connaître le Fils? Pardon? Il nous révèle le Père et ensuite... Oui, la parole est créatrice et encore. Pourquoi ça nous concerne tellement, nous? C'est lui qui nous justifie encore. Nous sommes aussi des fils. C'est notre frère. Il est le premier né et les autres nés. D'ailleurs, pour le chant qu'on a chanté tout à l'heure, c'est pareil. Hein. C'est pas ce qu'elle a voulu dire, Émilie. À un moment donné, elle disait « Dieu, tu es seul ». Non, il n'est pas seul. On est là avec lui. Il n'est pas seul, on est là avec lui parce qu'il a plein de fils et moi j'en fais partie. Voilà, au féminin, fille, ça se dit fille au féminin. Voilà, donc en fait, c'est important de comprendre qui est Jésus parce qu'il est le premier-né de toute la création. On va le lire, hein, c'est dit dans l'autre passage. Il est fils et nous aussi, nous sommes fils. Donc qu'est-ce que ça veut dire être fils? Eh bien, il faut regarder le grand frère. Et quand on regarde le grand frère, on comprend ce que ça veut dire d'être fils. Alors on va regarder ensemble. Donc là, on vient de lire Jean 1, on a bien vu qu'il s'agissait bien de lui, donc on peut lire Hébreux 1, que tout le monde a certainement lu minimum une fois. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, alors quand on parle de derniers temps, c'est depuis que Jésus est venu sur la terre, hein. Les derniers temps, c'est qu'une fois que Jésus a été manifesté sur la terre. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Alors, quand on parle du Fils héritier de toutes choses, c'est nous, hein, je vous rappelle. C'est le grand frère, il est notre modèle. Donc, quand on comprend qui est Jésus, nous, on est pareil. On est de la même nature. Donc, il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc on a vu ce matin, hein, quand ils nous ont fait le compte-rendu, de toute cette créativité qui est là. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est waouh! Essayez d'imaginer une empreinte. Jésus, il est l'empreinte du Père. C'est pour ça que Jésus, il disait aux disciples, quand les disciples disaient « Montre-nous le Père », il disait « Mais quand vous avez vu le Père ». Il pouvait dire ça parce qu'il est l'empreinte même du Père. C'est waouh! Alors, on retient ça. Jésus, il est l'empreinte du Père. Alors, ensuite, donc Dieu nous a parlé à Yom Kippour qu'en rejetant les fêtes, on avait rejeté le Père. Alors là, Jésus est appelé le Fils. Vous êtes d'accord? Le Fils premier-né. Mais il y a un autre passage très important. Il y a quelqu'un d'autre qui est appelé Fils dans la parole. Qui est-ce? Dans l'Ancien Testament. Élisabeth. Pardon? Dans l'Ancien Testament. Israël est appelé fils. Alors je vous propose de regarder avec moi, c'est, j'espère que je l'ai noté, c'est écrit dans... Où est-ce que j'ai noté ça? Bon. C'est au moment de Moïse, où Moïse est envoyé... j'ai écrit 15-6, ça doit être Genèse, je suppose. Enfin, c'est Moïse qui est envoyé vers le Pharaon. Et puis, Dieu lui dit de dire à Pharaon, « Laisse aller mon peuple. » Alors, j'espère que c'est ça, que c'est dans Genèse 15-6. Non, ça c'est Abraham, mince alors. Où est-ce que je l'ai écrit? Je suis désolée, hein, je suis un peu fouillie, moi. Je suis pas très séquentielle. Dans Exode 4-22. Ouf. Exode 4-22. Alors, Exode 4-22, on va le prendre ensemble. Donc, on se souvient, hein, Jésus qui est appelé Fils, mais là, on était dans le Nouveau Testament. On vient dans l'Ancien, dans 4-22, et il nous dit, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Comment ça, mon premier-né? Mais je croyais que c'était Jésus le premier-né, c'est quoi ça? « Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. » Et puis, et si on prend le verset 23, ben c'est ce qu'on vient de faire, dans 5.1, il est dit, « Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, donc son fils, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Comme c'est intéressant. Donc là, maintenant, il appelle Israël son fils. Il dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple pour qu'il aille au désert. » Pourquoi faire? Pour qu'il célèbre une fête à mon honneur. Et là, je repense à ce que Dieu nous disait à Yom Kippour. En fait, il se révélait par les fêtes. Et il révélait qui par les fêtes? Le Père, mais le Fils, Jésus, puisque Jésus est l'empreinte du Père. Et ce qui est fabuleux, c'est que Jésus, il est la clé. Quand on dit Jésus est le chemin, la vérité, la vie, mais en fait, il est une clé. Tout à l'heure, quand il nous parlait des 10 commandements, Franck, mais en fait, Dieu se présente dans les 10 commandements. Et comme Franck le disait si bien tout à l'heure, on ne peut pas y arriver tout seul. C'est la nature de Christ en nous qui va faire qu'on va être le reflet du Père. Donc, en fait, par les fêtes, le Père se révèle. Il révèle le Fils. Et ça, on le voit. Et puis, elle va parler tout à l'heure de l'Alliance, Huguette. Mais donc, ce qu'on comprenait à Yom Kippour, c'est que quand l'Église, qui n'avait pas compris ces choses et qui voulait prendre le contrôle, comme c'est déjà arrivé dans le peuple d'Israël, hein, je vous rassure, hein, quand le Seigneur m'a montré ça, il m'a montré aussi, je ne suis pas très bonne de nouveau en histoire, Vito, si je dis des âneries, ou Monica, tu me le diras, mais dans le peuple d'Israël, il y a une tribu qui un jour a dit, c'est Éphraïm, je crois, vous n'irez plus, c'est pas la peine d'aller sacrifier à Jérusalem, non, c'est pas la peine, non, on peut très bien faire ça à Samarie, c'est ça ? On peut très bien adorer à Samarie, pourquoi aller à Jérusalem ? Donc les Juifs avaient déjà fait ce péché, hein, de vouloir prendre le contrôle et au lieu d'obéir à Dieu, de faire leur propre truc. Et bien dans l'Église, je l'ai souvent dit, mais je ne l'ai jamais en fait dit de façon plus précise, mais il y a déjà, en l'an 2000, quand on fêtait l'anniversaire de l'édit de Nantes, on a été atterrés de voir que le produit de la raison et de la laïcité, c'était les guerres entre catholiques et protestants. Et quand au début on a dit « Ah, l'État, vous avez vu l'État, ce qu'il fait l'État ?» Mais en fait l'État a dû simplement faire la paix entre les catholiques et les protestants qui se tuaient entre eux, parfois, même souvent dans la même famille, entre cousins, entre fils et parents. C'était la catastrophe. Et à la fin, la France, l'État a dit « Mais si c'est comme ça, par pitié, gardez tout ce qui est de la religion dans le privé et surtout pas sur la place publique, parce que si ça doit produire de telles haines et de telles choses, non merci, gardez-le pour vous. » Donc voilà, c'était le fruit. Alors non, du coup, on a dit, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que catholiques et protestants se sont entretués comme ça, quoi ? Ça vient d'où ? Et là, le Seigneur nous a dit, mais parce que vous avez rejeté Israël. Alors on dit oui, et maintenant, alors, on en fait quoi de ça, on a rejeté Israël ? Ça veut dire quoi ? Alors pendant 10 ans, on a cheminé, on a essayé de... Il y en a qui ont judaïsé. Alors du coup, il y a des pasteurs qui ont dit « Oulala, c'est quoi ce truc ?» D'un coup, tu vois des gens qui arrivent avec la kippa, et puis ils se croient juifs, et ils pensent que parce qu'ils sont juifs, maintenant, ils sont meilleurs. Mais non, je vous rappelle, la Bible a dit très clair, il n'y a ni juif ni grec, il n'y en a pas un meilleur que les autres, tous sont privés et ont besoin de la gloire de Dieu. Mais il s'est passé quelque chose en rejetant Israël et en rejetant les fêtes. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, à la naissance de l'Église, et la France qui est appelée la fille aînée de l'Église, on a changé les dates des fêtes. On n'a plus voulu fêter les fêtes. Donc on a carrément, ça veut dire qu'on s'est séparé du Père et on a voulu faire notre propre truc. Et du coup, on a hérité d'un faux Père et d'un faux Christ. Et là, toutes les églises y ont eu droit, hein, parce qu'on est tous issus, les évangéliques des protestants, les protestants des catholiques, enfin bon bref, hein, il n'y en a pas un meilleur que les autres, hein, je vous rassure, il n'y en a pas un qui a des leçons à donner à l'autre. D'accord. Mais on s'est séparé de cette image du Père et Dieu voulait donner l'empreinte. Et il avait prévu Jésus déjà avant même la fondation du monde. Ensuite, il a voulu se manifester. Il a choisi... Non, il n'a pas choisi. Il a créé Israël. Il ne l'a pas choisi entre les nations. Il a choisi un homme. Et de cet homme est née une nation. Donc, ce n'est pas qu'il a choisi une nation qui était meilleure que les autres. Ça aussi, c'est faux. Il n'y a pas une nation meilleure que les autres. Il y a un homme qui avait eu la révélation de la justice et duquel est issu tout un pays. Et donc Dieu, au travers de ça et par les fêtes, il voulait préparer le monde entier déjà à recevoir le Père, à comprendre qui était le Père. Et le Père, c'est une famille, c'est ce que Franck disait tout à l'heure. C'est pas des « tu dois, il faut ». Et un Père, il prend soin. Et un Père, il anticipe. Et un Père, il aime faire la fête avec ses enfants. Et si vous voyez les fêtes chez les Juifs, moi j'étais à la fête de la Torah, ben alors ils sont tous là, les hommes, avec leurs grandes robes et tout, et ils dansent avec la parole, je sais plus qui en parlait récemment, mais ils la serrent sur leur cœur, et pour eux la parole c'est quelque chose de précieux, et parce que c'est l'alliance qu'ils ont fait avec leur papa, c'est pas quelque chose de dur, enfin bon, bref, voilà. Donc simplement, je voulais dire, Christ est le premier-né, il a été appelé fils. Ensuite, de là à ce que ce soit manifesté et qu'il vienne, eh bien, il y a eu tout ce temps avec Israël, où Dieu a commencé à se révéler qui il était. Et maintenant, nous voilà. Mais donc, sachons, alors que nous comprenons la justice, que nous comprenons que nous pouvons être fils et filles par ce que Christ a accompli pour nous, on se greffe sur ces alliances anciennes. Et la première alliance, c'est l'alliance éternelle. Et on en a pas mal discuté avec Huguette. C'est vrai que c'est comme un mystère. Cette alliance éternelle, c'est-à-dire que Dieu, moi, comment je le comprends, il était en alliance avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Il y avait le Père, il y avait le Fils, le Saint-Esprit, les trois ensemble, les trois sont Dieu, mais il y avait une alliance entre eux. Et ensuite, le Père a voulu le faire découvrir, avant même que le Fils ne vienne, pour préparer le chemin quelque part. Eh bien, il s'est forgé un peuple, il a donné des ordonnances pour se manifester comme Père, pour se révéler comme Papa. Et ce qui est magnifique, c'est que des fêtes, toute l'année, est scandée par des fêtes. Et une fois qu'on a refusé ça, ben on a refusé la fête. Et c'est pour ça qu'on est devenu une chrétienté tellement triste, légaliste, rigide. Les protestants, on les reconnaissait parce qu'ils étaient habillés en noir. Les catholiques, je crois que d'ailleurs, c'est pas mieux. Vous allez en Italie du Sud, en Sicile, ou vous allez au Portugal, vous allez en Grèce, elles sont en noir. Et bien ça, c'est pas notre Dieu. Amen. C'est le Dieu de la vie. Il aime les couleurs. Il aime les couleurs. Donc... Et simplement, il a préparé ça et il avait préparé d'avance pour nous faire rentrer dans cette alliance, pour que nous aussi, on devienne fils et filles dans cette alliance. Et il a dit d'ailleurs par rapport à Israël et l'Église que des deux, il n'en a fait qu'un. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de créer avec lui. Il n'est plus tout seul, Dieu. Il n'est plus tout seul, il est avec nous. Et un autre mystère encore plus grand dans lequel il faut qu'on continue vraiment à travailler avec le Seigneur ensemble, c'est il nous a fait fils. Mais après, il nous prépare comme épouse pour son fils. Waouh ! Et l'épouse, je ne sais pas vous, la notion que vous avez de l'épouse, mais elle règne avec son époux. Et l'époux, d'ailleurs, il n'est pas sur terre. Donc, ce que Christ dit, c'est nous qui le faisons. Un peu ce qu'il a fait avec le Père, c'est nous qui sommes appelés à concrétiser l'œuvre de Christ ici-bas. Mais pas avec nos propres moyens, avec tout l'héritage qu'on a dit tout à l'heure. Relisez, méditez Jean 1 et Hébreux 1. Vraiment, demandez au Seigneur. Et puis vous savez, ce qui est magnifique dans les fêtes juives, c'est qu'il faut toujours poser des questions. Alors vous avez toujours l'enfant, le plus jeune de la maison. Et papa, et pourquoi si, et pourquoi ça? Et c'est carrément instauré dans les fêtes. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est parce que Dieu aime qu'on lui pose des questions. Non? Puisque dans toutes les fêtes, ça commence comme ça. Le plus petit de la maison, il dit « Eh papa, et pour ça, et pourquoi ?» D'ailleurs, les 5 ans, hein, Raphaël, préparez-vous. Katia, Raphaël. À 5... Oh, Julie et Fabrice, avant. C'est déjà quel âge, 2 ans ? Et c'est quoi ça ? Et pourquoi ça ? Et à moins d'avoir, nous, la révélation du Père, on a du mal à répondre, quoi. Donc, simplement, je vous propose qu'on prie avant de passer la parole à Huguette et qu'on remercie le Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous te remercions parce que tu nous appelles fils et filles. Je te remercie pour ces temps dans lesquels nous nous trouvons, où la révélation augmente, où tu nous amènes à cette liberté où on peut venir avec toi et créer le futur, créer notre futur, changer le futur de nos nations. Parce que tu nous as fait fils et filles et que tu n'as pas décidé de le faire tout seul, mais tu nous inclus avec toi. Et à la fois, tu es ce Dieu qui est Seigneur de tout, et à la fois, on est pleinement avec toi, comme Jésus était pleinement avec toi à la création. Et je te remercie pour ça, cher Saint-Esprit. Nous te prions vraiment de venir nous éclairer, d'éclairer les mensonges qui nous tiennent captifs, de comprendre qui nous sommes en tant que famille, pour que nous soyons en sécurité ensemble, que nous devenions chacun des pères et des mères. Tu veux faire de nous des pères et des mères et que nous ayons beaucoup de fils, Seigneur, parce que tu veux... Toi, tu nous appelles à ce que nous ayons beaucoup de fils. Amen.
Alors moi, je m'assois, je suis dans le repos, hein. Voilà. Alors, comme l'a dit Manuela, on a pas mal partagé, on a pas mal discuté, et puis on est parti, en fait, sur l'alliance, cette première alliance que Dieu a faite. Et je vais juste vous donner une définition. Donc bérite en hébreu est toujours lié avec la parole karat. Et bérite veut dire couper et karat veut dire alliance. Et merci. Alors déjà, une des premières choses, l'alliance, c'est aussi la compréhension que nous sommes justes. Gardez simplement ce mot karat et bérite en tête, hein, couper et alliance, j'y reviendrai plus tard. Et nous avons un héritage, on en parle depuis quelque temps, et il nous faut comprendre que nous marchons dans une alliance. Et c'est quand on comprend qu'on marche dans une alliance qu'on peut effectivement se saisir de cet héritage. Et ce qui intéresse Dieu, c'est de lever des leaders qui ont son caractère à lui. Quand on marche dans l'alliance, quand on marche dans la justice, eh bien, la justice, c'est quoi ? C'est simplement Dieu qui restaure son image en nous. On a vu tout ça lors du séminaire hein, de ces 3 jours avec Edgar et Rita. Hein. Qu'est-ce que c'est que la justice ? C'est simplement Dieu qui veut restaurer l'image qu'Adam avait perdue quand il y a, au moment de la chute. Il veut restaurer cette image, l'image du Père, l'image de Dieu en nous. Et je crois que c'est important qu'on garde ces choses, qu'on les réalise. Et l'alliance est liée quelque part à notre caractère. L'alliance n'est pas issue d'un sentiment ou de notre bien-être ou de notre mal-être. L'alliance, finalement, c'est un trait de caractère. C'est quelque chose qui... C'est une décision. Et une décision, ça va renforcer et fortifier notre caractère. Donc elle ne dépend pas de nos sentiments, l'alliance c'est une décision. Et dans l'alliance, il y a 3 éléments, la fidélité, la loyauté et la permanence. Et ces trois éléments font partie du caractère de Dieu. Et si Dieu veut restaurer son caractère, son image en nous, eh bien ce sont 3 choses que Dieu va restaurer en nous. Dieu est loyal, il est fidèle et il est permanent. Il n'y a pas ombre de variation en lui. Je crois que c'est important que ces choses-là, on les comprenne. Et autre chose, c'est que sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Et on peut prendre le verset dans Hébreux 9, 22. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On va prendre dans Genèse 17, non, c'est pas Genèse 17, c'est Genèse 15. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham et à sa descendance, qu'est-ce qu'il a fait ? Dans l'Ancien Testament, quand il y a 2 personnes qui passaient un contrat l'une avec l'autre, qu'est-ce qui se passait ? Ils prenaient un animal, le coupaient en deux, séparaient les 2 morceaux, versaient le sang de l'animal au milieu et ils passaient 7 fois dans le sang de l'agneau en proclamant, en déclarant le contrat, en déclarant les termes de l'alliance. Et ça va loin parce que j'ai dans mes notes la signification de ce rite, celle de la conclusion d'une alliance. On pense que les contractants passant entre les animaux découpés reconnaissaient qu'ils subiraient le sort de ces animaux s'ils ne tenaient pas leur parole. C'est fort ça, c'est impressionnant. Donc si je fais alliance avec quelqu'un, je me lie à lui et c'est quelque chose de je ne peux pas revenir dessus. Et Dieu, il a fait, donc la première alliance, c'est vraiment Dieu a fait cette alliance avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Et j'ai réfléchi là-dessus et puis pour moi il y a des choses qui viennent et je me dis mais waouh, il y a des choses que je suis incapable de comprendre. Mais il y a des choses tellement profondes que le Saint-Esprit aimerait nous révéler, qu'il aimerait soulever. En fait, quand le Père a fait alliance avec son Fils, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a marché dans le sang même de son propre fils. Moi, ça, c'est moi qui déduis ça. Et quand il a fait alliance avec toi, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a pris par la main et il a marché dans le sang de son fils en déclarant, en proclamant, en prononçant les termes de l'alliance. Et c'est l'alliance de la préservation de la vie. La première alliance, c'était pour préserver la vie. C'est impressionnant. À un moment donné, Dieu avait décidé de détruire l'humanité. Quand il a regardé en bas, il s'est dit, mais il n'y a plus rien à sauver, il n'y a plus rien à faire. Et tout d'un coup, ses yeux sont venus se poser sur Noé. Alors, je vous laisse... Dans Genèse 15, hein, vous le lirez parce que le texte est long, vous lirez et c'est dans ce texte qu'il est parlé des animaux qu'on sépare en deux, et puis à un moment donné, le feu, c'est Dieu qui a fait alliance avec Abraham, et Abraham lui a demandé, mais comment est-ce que je reconnaîtrais que tu as fait alliance avec moi? Et Dieu lui a dit, mais prends, je ne sais plus, il y avait plusieurs animaux, une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Et il a séparé tous les animaux sauf les oiseaux. Et à un moment donné, le feu de Dieu est descendu et il a passé entre ces animaux. Donc Dieu a fait alliance avec Abraham. Il a fait une promesse à Abraham, c'est qu'il aurait une postérité. C'est que quand il regarde les grains de sable sur la plage ou quand il regarde les étoiles du ciel, eh bien sa postérité serait aussi nombreuse que cela. C'est ça l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Mais c'est juste pour vous parler de ces animaux qu'on coupait en deux. Vous pouvez le vérifier dans la parole. Je crois que c'est important de ne pas recevoir simplement des choses, mais aussi de les vérifier. Et c'est vrai, quand on pense à ça, on a aussi tous en tête quelque part ces films, vous savez, les films, les westerns d'autrefois, où quand... des Indiens ou un Indien avec un blanc faisait alliance, ils se tailladaient les veines, ils mélangeaient leur sang et c'était à la vie, à la mort. Vous vous rappelez de ça, les jeunes peut-être moins parce qu'il n'y a plus trop de western maintenant, mais c'était vraiment ça, c'était à la vie, à la mort. Et quand il y en a un qui était en danger, l'autre était là pour le défendre au péril de sa propre vie. Et c'est pareil quand il y a une alliance entre un homme et une femme. Au premier moment de l'alliance, il y a une effusion de sang. Et dans le sang, il y a la vie. Et Jésus est le prince de la vie. Il y a tellement de choses que j'aimerais développer, que j'ai moi-même pas encore complètement comprises, mais cette notion d'alliance, c'est quelque chose de tellement fort, de tellement... Waouh, je me dis, ouais, je suis loin, loin d'avoir tout réalisé, tout compris. Et donc, cette alliance, cette première alliance, c'est pour préserver la vie. Et l'agneau de Dieu est l'agneau immolé dès la fondation du monde. On peut trouver ça dans Apocalypse 13 au verset 8. On va peut-être le prendre. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. C'est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Alors là encore, je vais vous dire quelque chose qui n'engage que moi. Mais dans cet agneau immolé dès la fondation du monde, ou dans d'autres passages, le passage de 1 Pierre 20, l'agneau immolé avant la fondation du monde. J'ai cogité là-dessus et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Et pour moi, il y a cette notion, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Jésus est venu manifester quelque chose qui avait déjà été accompli dans les cieux. Et je me dis, waouh, là c'est vrai que mon entendement, mon intelligence ne suffit pas pour comprendre et pour suivre tout ça. Mais il faut avoir cette conscience aussi, cette notion que Dieu est hors temps. Et nous sommes dans ce tunnel du temps. Et Dieu étant hors temps, c'est quelque chose qui a toujours été. Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Moi, ça me paraît tellement énorme quand je réfléchis à ça, quand je pense à ça. Mais bon, comme dit, pour moi, ça ne m'engage que moi. Laissez le Saint-Esprit vous révéler ces choses en profondeur aussi. Travaillez la parole, je crois que c'est important. Mais pour moi, c'est waouh. Jésus a été immolé avant la fondation du monde. L'agneau de Dieu immolé avant. Avant. C'était déjà fait. Quand Jésus est venu sur cette terre en tant qu'homme, eh bien, finalement, quelque part, c'était déjà fait. Il n'a fait que accomplir ce qui était déjà fait. Il l'a accompli dans sa chair en prenant notre nature humaine. Et il fallait aussi que les deux parties marchent donc sept fois dans ce sang, hein, quand les animaux étaient partagés en deux et que le sang était versé. Et les mots semer, sept, jurer et alliance se disent de la même manière en hébreu. Et c'est vrai qu'on peut trouver pas mal de sept dans la parole de Dieu. Hein. En sept jours, Dieu créa le ciel et la terre. Le septième jour, il s'est reposé. Et quand l'homme pêche, en fait, il perd le bénéfice de la position d'alliance. Et c'est pour ça que Dieu a établi sept alliances avec Dieu. Il n'en a pas établi qu'une seule, il en a établi sept. Pour aujourd'hui, on ne va voir que la première. Hein. Vous avez les sept fêtes dans le Lévitique dont parlait Manuela tout à l'heure, hein, ces sept fêtes. Les sept éléments dans le tabernacle, sept sortes de matériaux dans le tabernacle de David. Il y a des cycles de sept, les sept jours de la semaine, les sept semaines dans le livre de Daniel. Tout ça, je crois que c'est des choses à méditer, à travailler, à laisser entrer en nous. Et ce qui va changer notre caractère, en fait, c'est la révélation de l'alliance. Il ne suffit pas de connaître, il faut que cela devienne une révélation. Des fois, on connaît des choses ici, mais ce n'est pas encore descendu. C'est pas encore, on n'a pas vraiment la révélation. Et il y a besoin à ce que cette révélation de l'alliance devienne une réalité dans nos vies. Et notre caractère est le fruit de la révélation de l'alliance. Et c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes dans les familles, de problèmes dans l'Église, souvent parce qu'on n'a pas eu cette révélation de l'alliance. Autre chose qui est importante, c'est qu'on ne peut faire alliance qu'avec quelqu'un avec qui je suis semblable. C'est pour ça que cette notion de justice est tellement précieuse, tellement importante. Dieu restaure son image en nous parce qu'il veut faire alliance avec nous. Souvenez-vous d'Adam, quand Dieu a fait passer tous les animaux devant lui, eh bien, il a trouvé personne qui lui soit semblable, personne avec qui il pouvait faire alliance. Et Ève, Dieu a créé Ève, en fait. La nature d'Adam, Adam avait cette double nature en lui, et c'est pour ça qu'il est dit que Dieu l'a fait tomber dans un profond sommeil et il a retiré Ève de sa côte. Et enfin, il a vu quelqu'un avec qui il pouvait faire alliance. Et si Dieu avait fait alliance avec Adam dans un premier temps, mais c'est parce que Adam avait été créé à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait faire alliance avec lui. Et on a besoin de ce fondement de la justice. On a besoin à ce que l'image du Père soit pleinement restaurée en nous pour que nous puissions faire alliance avec Dieu. Dieu, il a fait alliance avec nous. Mais nous aussi, nous devons faire alliance avec Dieu. Et donc, là où je voulais en venir tout à l'heure, par rapport à ce pacte de préservation de la vie, on connaît tous l'histoire de Noé. C'est vrai que Dieu a regardé, il a regardé, puis je vais détruire l'humanité. Il s'est repenti d'avoir créé l'humanité, et je vais la détruire. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas détruit l'humanité? Parce qu'il y avait un homme, un seul, Noé. Et Dieu a vu que Noé était juste. Ce qui veut dire que Noé avait déjà compris. Il avait déjà vu et compris cet échange qu'il y a à la croix, cet échange qui se passe, il était juste. Comment est-ce qu'on reçoit la justice? Comment est-ce qu'on devient juste? C'est quand il y a cet échange qui se fait à la croix. Cet échange, Jésus prend notre nature et il nous donne la sienne. Et ça, Noé l'avait déjà compris, il l'avait déjà vu. C'est pour ça aussi que je me dis, mais l'agneau immolé avant la fondation du monde, comment est-ce que Noé a pu le voir s'il n'y avait pas eu cet agneau immolé avant la fondation du monde? Comment est-ce qu'il a pu le comprendre? Comment est-ce qu'il a pu le vivre? C'est pour ça que, dans ma conclusion à moi, ouais, l'agneau immolé avant la fondation du monde, c'était déjà fait quand Jésus est venu sur la terre. Et on peut prendre dans Genèse 6, au verset 18, où il est dit, « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, et tout ça. » Et au verset, au chapitre 7, verset 1, Dieu dit, L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Waouh ! Je me dis, parce qu'il y a eu un juste, Dieu a préservé et sauvé l'humanité. Autrement, aucun de nous ne serait assis là ce matin. Si Dieu avait détruit l'humanité, on ne serait pas là. Mais parce qu'il y a eu un juste, un seul, Dieu n'a pas détruit. Et je me dis, waouh, Dieu est en train de lever des justes de partout par le monde. Il y a des gens qui comprennent cet enseignement de la justice. Mais qu'est-ce que ça va produire sur la terre? C'est extraordinaire. Pour moi, il y a quelque chose il y a une explosion. C'est pas possible autrement. Il y a une explosion de vie qui va arriver. Cette petite pierre dans Daniel qui est appelée à devenir une grande montagne, c'est ça, c'est une poignée de justes qui a compris. Et après, ça devient une montagne. Pourquoi? Parce que quand tu as compris cette notion de justice et que tu es devenu juste et que tu es entré en alliance avec ton Dieu, eh bien, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Tu vas faire comme Jésus a fait. Tu vas prendre des disciples et tu vas les enseigner dans la justice. Et qu'est-ce qu'ils vont faire eux quand ils auront compris? Ils vont prendre d'autres disciples et ils vont les enseigner d'après la justice. Et qu'est-ce que ces autres disciples vont faire? Ils vont les enseigner et puis... ils vont prendre, eux, chacun des disciples. Et c'est quelque chose, c'est comme une bombe qui explose et qui éclate. Et on va en avoir partout. Et l'Église est appelée à grandir. Et on va prendre encore dans Genèse 9, versets 9, 11 et 12. « Voici, j'établis mon alliance avec vous et votre postérité après vous. » Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, donc il dit ça à Noé, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Donc Dieu, quand il a fait alliance avec Noé pour préserver la vie, il n'a pas seulement fait alliance avec un homme, il n'a pas seulement fait alliance avec Noé, mais il a fait alliance avec toutes les créatures qui vivent sur cette terre et avec la terre elle-même. C'est, là encore, c'est vraiment une dimension que je découvre et qui m'époustoufle, qui m'épate tellement. Je me dis, waouh ! C'est vrai que quand moi, avant, j'avais cette notion d'alliance, c'était Dieu a fait alliance avec les hommes. Mais non, il a fait alliance avec tout ce qui se meut, avec les oiseaux, avec le bétail, avec tous les animaux de la terre. Il a fait alliance avec la terre. C'est quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus... C'est quelque chose de complet, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Méditez ces passages. Moi, je n'ai pas tout compris, mais je sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui me dépasse là-dedans. Et cet enseignement de la justice et cette alliance, finalement, c'est le seul moyen afin que l'homme puisse entrer tout à nouveau dans sa destinée. Ça, on le sait tous qu'on a une destinée en Dieu. Et c'est uniquement en ayant cette révélation de la justice qui va nous amener à l'alliance avec le Père, à l'alliance avec Dieu, qui va permettre à ce qu'on entre tout à nouveau dans notre destinée. Et entrer dans notre destinée, c'est mourir à nous-mêmes. Il y a cet échange dont je parlais tout à l'heure, cet échange qui se fait à la croix. Moi, je meurs pour que Christ vive en moi. Et pareil, dans l'alliance entre un homme et une femme, quelque part, tu meurs à ton célibat, tu meurs à tes propres désirs, tu meurs à des choses que tu avais peut-être envie de faire, mais tu renais dans une autre destinée. Il y a une autre destinée qui vient. Je me sers de ça parce qu'en fait, c'est l'image que Dieu voulait donner, l'image de la famille, l'image du couple, l'image de l'alliance entre un homme et une femme, c'est l'image que Dieu voulait nous donner pour qu'on comprenne quelle est l'alliance que lui, il fait avec nous.
Donc par rapport à ça, vous savez qu'il y a eu le premier Adam, et Adam, il était innocent, il n'était pas juste. Et ce qui a fait qu'ensuite Jésus était juste, c'est par les choses qu'il a souffertes et par son obéissance. Alors quand on entend tout ça, on se dit oui, mais alors concrètement, dans ma vie de tous les jours, eh bien c'est simplement par l'obéissance. Ce que je vous disais tout à l'heure, moi jeune convertie, quand j'ai réalisé qu'il y avait un Dieu créateur, un Dieu qui est au-dessus de tout, j'ai dit ben je veux bien obéir. Et donc je dirais l'enjeu aujourd'hui, c'est de reconnaître qu'il y a ce Dieu qui a juré par lui-même, hein, ça c'est dans plusieurs passages, hein, cette alliance il l'a accomplie lui-même, il est dit que Jésus est le sacrifice parfait, nous on ne peut rien ajouter à ce sacrifice, ça c'est dit dans plusieurs endroits, mais par contre, c'est maintenant, est-ce qu'on va simplement venir accepter d'entrer dans cette alliance par l'obéissance. Et je crois que ça c'est important de savoir que ce que papa nous demande, c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pas pour nous frustrer, mais comme disait Huguette, c'est pour nous faire rentrer dans notre destinée. Et comment est-ce qu'on peut rentrer dans notre destinée? Ben, en obéissant à papa. Et comment est-ce qu'on obéit à notre papa qui est dans le ciel? Ben, ça commence par obéir à nos parents. C'est pour ça qu'il est écrit, obéissez à vos parents. C'est savoir se soumettre au Christ les uns dans les autres. C'est, ben, quand il y a des responsables que Dieu vous donne, ben, savoir les écouter. Moi, je vois parfois, hein, on voit des gens qui sont en train d'aller dans le mur, on leur donne des conseils, mais ils n'en tiennent absolument aucun compte, et ils se prennent le mur. Je veux dire, on ne va pas les obliger, et les conseils qu'on donne parfois semblent douloureux, mais si on les donne, ce n'est pas pour qu'ils aillent dans le mur, c'est parce que Dieu fonctionne dans l'ordre. Il est dit que c'est par l'autorité et la vérité qu'il soutient le monde. Et donc ça nous dépasse, mais Dieu veut qu'on soit en sécurité, c'est pour ça qu'il a mis des papas et des mamans. Et il est dit que l'Église, elle est pour la nation, ce que des pères et des mères sont pour leur famille. On est appelé à fonctionner dans cet ordre, dans cette révélation de l'Alliance, c'est-à-dire ce tout accompli de Jésus, ce 100% qu'il a accompli à notre place. Et du coup, on peut aller dans cette obéissance avec sécurité. Et il y a quelque chose au Mexique qu'il a beaucoup donné au début, c'était « Ton obéissance va t'emmener bien plus loin que ta compréhension ou tes émotions. » Par exemple, un petit enfant veut marcher. Tout va bien et tout. « Ah, j'ai peur !» Et la maman dit « Mais non, vas-y, tu peux aller. Ah. » Et qu'est-ce qui va faire qu'il va marcher? Le regard de la maman qui lui donne confiance. « Mais si, tu peux y arriver. » Et même s'il tombe, c'est pas très grave, on est là pour le relever. Donc vraiment savoir que c'est notre obéissance. Alors comment est-ce qu'on va rentrer dans cette obéissance au Père, dans notre nation de France? C'est intéressant. Par la révélation de ce que Christ a fait pour nous. Par savoir que Dieu n'est pas un Dieu qui nous juge, mais savoir nous reconnaître les uns des autres en Christ. S'aimer les uns les autres et se soutenir les uns les autres. C'est tout un programme, n'est-ce pas? Mais Dieu bâtit sa maison, fondée sur son alliance. Et vraiment, je vous encourage chacun que l'on rentre dans la mesure d'obéissance que nous comprenons. Et vous savez, il y a des passages qui disent « parce qu'ils marchent dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas obéi ». Donc, si on obéit au Saint-Esprit, si on obéit à la parole, eh bien la connaissance augmente. Si on n'obéit pas à ce que Dieu nous montre, si, eh ben, la connaissance diminue et on est comme en ténébrés. Alors, il y avait quelqu'un qui dit « tu sais plus où tu en es ?» Ben, souviens-toi, quel est le dernier pas où tu savais où tu étais? Retourne-y, essaye de voir qu'est-ce que tu as pas fait que le Seigneur te demandait, ou qu'est-ce que tu as fait qu'il ne t'a pas demandé. Et puis sachez qu'on n'est pas tout seul et on veut vraiment marcher ensemble dans cette révélation de qui est le papa pour nous, dans cette notion de l'alliance, et sachant qu'on est en marche, mais que le papa du ciel, il nous aime et qu'il nous veut avec lui.
Donc au début, je disais que quand on fait alliance, c'est pas par nos sentiments, c'est par une décision. Et une fois que j'ai pris cette décision, parce que c'est une décision et que c'est pas par les sentiments, eh bien simplement je peux tenir ferme. Et là, je peux reprendre ce passage dans Romains 8 au verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Parce que j'ai fait alliance avec lui et que cette alliance, c'est une décision et ça ne dépend pas de mes sentiments. Que j'aille bien, que j'aille mal, j'ai fait alliance avec Christ. Que je sois dans l'abondance, que je sois dans la disette, j'ai fait alliance avec le Père, j'ai fait alliance avec Dieu et je tiens ferme parce que j'ai fait alliance. Et là, je vais simplement vous laisser quelques pistes à travailler chez vous et à réfléchir chez vous. Pépé, il disait, tu ne peux pas porter plus de gloire que ton caractère ne peut emporter. Et donc, la décision, c'est une question de caractère. Et il y a trois niveaux d'alliance. En fait, c'est le premier, c'est l'alliance avec Dieu. Et le deuxième, c'est faire alliance avec les autorités dans notre maison. Quelle est notre maison? C'est Josué, c'est ici. Quelles sont les autorités? On avait vu ça un peu quand il y avait Edgar et Rita, hein, lors du culte. Vraiment, voilà, faire alliance avec la maison dans laquelle nous sommes. Et on sait que quand on a fait alliance avec la maison dans laquelle on est, eh ben, la tempête peut venir, rien ne va nous détacher. Rien ne va arriver à nous secouer, à nous enlever de cette alliance. Et puis le troisième niveau d'alliance, c'est faire alliance avec toi-même. Et là, moi, il y a ce verset qui est venu et que je vous laisse. C'est que Dieu, il nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et si je n'ai pas fait alliance avec moi, si je ne suis pas en paix avec moi, si je ne suis pas pleinement réconciliée avec moi, si je ne suis pas pleinement en accord avec moi-même, je ne peux pas aimer les autres comme moi-même. Donc j'ai besoin, là aussi, de faire alliance avec moi-même. Mais là encore, c'est une notion qui est tellement forte et qui demande vraiment à être méditée, à être développée. Alors voilà, on a un Dieu d'alliance. Et c'est une alliance éternelle. C'est une alliance, Dieu, son alliance, il ne va jamais, 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 jamais la briser. Jamais. Elle est éternelle. Il a fait alliance avec nous. Il a fait alliance avec toi, avec moi, avec chacun d'entre nous. Moi, je peux me séparer de son alliance. Par des mauvaises décisions, Mais lui, son alliance, elle est éternelle. Elle est éternelle. Amen. Alors je vous laisse simplement ces trois derniers points. Réfléchissez là-dessus, méditez là-dessus. Moi je vais continuer parce que je trouve que c'est passionnant. C'est vrai de fouiller, de creuser la parole par rapport à l'alliance. Je trouve que c'est tellement extraordinaire. Et comme dit, quand on fait alliance les uns avec les autres, quoi qu'il se passe, on tient ferme parce qu'il s'agit d'une décision et non pas d'un sentiment. Papa, merci pour cette alliance qui est éternelle, cette alliance que toi, tu as faite avec nous. Merci parce que quand tu as vu qu'il y avait injuste, Seigneur, ça t'a... tu avais décidé de détruire l'humanité, mais tu ne l'as pas fait parce qu'il y avait injuste, parce qu'il y a eu un homme qui avait compris cette justice, qui avait compris cet échange qui se faisait. Et c'est à cause de ça que nous sommes là aujourd'hui. Et merci pour ces enseignements sur la justice. Seigneur, je te prie que ces enseignements puissent descendre en profondeur, que ça ne soit pas quelque chose qui reste dans notre intelligence, mais que ça descende dans les profondeurs de notre esprit, que ça descende dans les profondeurs de notre être, et que cette justification, cette justice, nous puissions la vivre. Et merci pour cette alliance que tu as faite avec nous. Cette alliance, Seigneur, que rien ni personne ne peut détruire. Et Seigneur, on veut faire alliance avec toi, faire alliance entre nous et faire alliance avec nous-mêmes comme tu nous le demandes. Parce que tu es le Dieu de l'alliance, tu es le Dieu de l'alliance et nous le reconnaissons ce matin. Merci Papa. Amen.
En tout cas, je vous encourage, et on se disait avec Huguette, c'est tellement riche de pouvoir travailler à deux ou à trois. Et après, ce qui est très riche aussi, c'est qu'on a un Luc qui est tellement fondée. Alors moi, quand j'avais des questions, j'appelais Luc et je disais, Luc, au fait, et ça, je ressens, mais c'est où? Puis quand je lui ai dit, il me dit, oui, mais attends, t'as oublié ça. Donc n'hésitez pas aussi, quand vous travaillez la parole, s'il y a des choses qui vous touchent ou quoi, et que vous voulez en savoir plus ou avoir une perspective plus complète, vous lui envoyez un email ou vous lui passez un coup de fil. On a vraiment la chance d'avoir un Luc, vraiment le Seigneur lui a parlé il y a plusieurs années en arrière de travailler davantage la parole pour mettre vraiment le fondement, et il savait que par rapport à l'éducation chrétienne, il fallait vraiment qu'il soit enraciné. Et je peux vous assurer qu'il paye un prix lourd parce qu'il fait ça en plus de tout le reste. C'est vraiment énorme, et même moi je vois quelle bénédiction. Donc vraiment on a la chance d'avoir un Luc au milieu de nous. Donc ne nous déchargeons pas sur lui, parce que c'est pas le but. Et si on regarde comment faisaient les Juifs, hein, et d'ailleurs si vous allez dans les écoles, dans les écoles juives, ils sont à deux ou trois et ils parlent, hein, et ils se disent la parole et ils se disent des versets et à quoi ça leur fait penser. Et je pense vraiment on a cette responsabilité aussi de creuser ensemble. Et en plus on a un Luc qui est là et qui peut qui nous aide et qui fait le garde-fou qu'on n'aille pas dans des chemins parfois. Parce que vous savez, par exemple, moi je fais la loupe, souvent vous l'avez vu, hein, que je fais la loupe. Je vois un truc et je le grossis. Mais le problème de la loupe, c'est qu'elle voit qu'un tout petit truc, qu'elle a énormément grossi, mais elle ne voit pas la vue d'ensemble. Alors heureusement qu'il y a Luc qui, lui, a la vue d'ensemble, qu'il n'y a pas que la loupe. En tout cas, quelle joie d'être ensemble, quelle joie de cheminer ensemble dans cette liberté de l'alliance, de savoir qu'on a ce Dieu qui a tout apporté pour nous et que l'on avance ensemble comme une famille, en sécurité, dans l'amour des uns des autres. Amen.
David, ce matin, il me disait, c'est un jour particulier aujourd'hui. C'est le jour du débarquement. Et comment est-ce qu'on appelait ceux qui sont venus nous aider, les alliés? Ils avaient fait alliance avec la France. Et c'est parce qu'ils avaient fait alliance que la France, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Que la France, elle a été sauvée, qu'elle a été libérée. Parce qu'il y a eu cette alliance. Et ce sont des hommes qui ont donné leur vie pour nous. Les alliés. Moi, je trouve que c'est un terme extraordinaire. Et ouais, on est des alliés. Amen.
Voilà, merci beaucoup Manu et Huguette, c'était super. Je pense vraiment qu'on peut vraiment simplement louer le Seigneur pour cette alliance qu'il nous donne. Et que le Seigneur vraiment nous donne d'y rester toute la semaine, d'y penser, d'y demeurer, de le méditer, de s'en rappeler. C'est une alliance que Dieu a avec chacun avec nous. Amen. Seigneur, on te loue vraiment pour cette alliance que tu as faite avec nous parce que tu as tout fait. C'est toi qui as réfléchi à l'alliance, tu y as pensé, tu l'as conçue, tu l'as accomplie, et simplement tu nous l'offres, tu la mets devant nous, tu nous la donnes. Et on y rentre et on y marche. Et on a juste à en bénéficier, à y vivre, à en vivre, et on te remercie vraiment Seigneur. On te bénit Père pour toute cette semaine au nom de Jésus. Amen.